Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. C'est ce que s'écrit le prophète Élie dans la première lecture. Puis ensuite, il s'étend sous le buisson et il s'endort. Ce qui, dans la Bible, est souvent un équivalent de mort. Et si on reprend l'épisode de la vie d'Élie, vous vous souvenez qu'il avait été envoyé auprès d'Akab, le roi qui avait abandonné le Seigneur avec sa femme Jézabel, et qu'il avait annoncé une sécheresse terrible. Et quelques années plus tard, 2 ans je crois, il est envoyé par le Seigneur qui lui dit « Va voir le roi Akab et annonce-lui la fin de la sécheresse. » Élie y va, et peut-être ne s'en tient-il pas juste à ce qu'il devait faire. D'une certaine manière, il provoque Dieu, puisqu'il se lance dans la construction d'un autel en mettant au défi les partisans de Baal, l'idole, d'arriver à mettre le feu à leur autel, alors que lui y arriverait uniquement avec la bénédiction de Yahvé. Et donc il force un petit peu la main du Seigneur, mais il se passe ce qui devait arriver, c'est-à-dire que Élie l'emporte, et après toute une journée d'échecs des prophètes de Baal, Dieu met le feu à la demande d'Élie, à son autel sur lequel il avait mis des offrandes et qu'il avait largement arrosé d'eau. Donc le miracle était parfait. L'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite Élie fait égorger 450 prophètes de Baal. Et Élie se rend compte qu'il ne vaut pas mieux que ses pères. En fait, il a témoigné d'un Dieu finalement violent, puisque ça aboutit à l'assassinat de tous les prophètes. Et il prend conscience qu'il ne fait pas mieux que ceux qui l'ont précédé, témoignant encore d'un Dieu qu'il voit comme toujours puissant, vengeur, implacable. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur intervient et qu'il va se faire mieux connaître par Élie. Élie s'enfuit au désert et comme on l'a lu, le Seigneur lui donne à boire et à manger, du pain et de l'eau, au moment où il est épuisé et pense que tout est fichu. Comme le Seigneur est généreux, il leur fait une seconde fois. Et ensuite, Élie a la force d'aller jusqu'à la montagne de l'Horeb, l'Horeb qui est la montagne sainte, sur laquelle Dieu s'était manifesté à Moïse, au milieu de tremblements de terre, de feux, d'éclairs, enfin de quelque chose d'assez fracassant. Et dans la suite de l'histoire d'Élie, Élie va donc à l'Horeb, et là le Seigneur va se manifester avec douceur, avec tendresse, et vous vous souvenez qu'il se manifeste dans une brise légère. De là, que fait le Seigneur? Eh bien, il renvoie Élie, là d'où il vient, en mission. Et si Dieu sauve, si Dieu nourrit, c'est pour envoyer ensuite à nouveau en mission au milieu des autres, là où il nous rejoint. Et voilà dans l'évangile de Jean la suite du discours sur le pain de vie. Et je soulignerai 2 éléments. Le premier, bien sûr, c'est l'Eucharistie. Ça nous pose la question, qu'est-ce que l'Eucharistie pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce que l'Eucharistie pour moi? Jésus dit, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donné pour la vie du monde. » Et ainsi, tout au long du discours sur le pain de vie, Jésus explique qu'il donne sa vie librement, qu'il se donne à ceux qu'il aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il va jusqu'à donner sa chair à manger et son sang à boire. Vous vous souvenez que quand il a dit ça, la plupart de ses disciples, nous dit l'Évangile, l'ont quitté, trouvant ses paroles inacceptables. Pour nous, communier au corps du Christ, manger de ce pain, participer à l'Eucharistie, c'est être appelé, comme nous l'annonce Jésus, à vivre éternellement. Et à vivre éternellement, pas plus tard, pas après notre mort, mais dès maintenant. Dès maintenant, aujourd'hui, l'Eucharistie consommée dans la foi entraîne notre rencontre intime avec le Seigneur pour l'éternité. Autre chose qui est Jésus pour moi. Dans l'Évangile, on a entendu, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Ainsi, Jésus s'affiche comme Dieu. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je crois réellement que Jésus, fait homme, homme dont on lit toute l'histoire dans les évangiles, est réellement homme et Dieu? Il a la vie éternelle, celui qui croit. Et vous vous souvenez que Jésus nous dit « Qui est mon frère? Qui est ma mère? Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique. » Nous sommes sauvés par la foi et par l'obéissance à Jésus. Et Jésus lui-même nous dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, et je pense même de pain eucharistique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et il me semble très important de tenir ces deux éléments dans notre vie quotidienne, à la fois l'Eucharistie, la communion, mais en même temps la parole active dans notre vie. Parce que communier au corps du Christ n'est pas un acte magique qui ferait des choses malgré nous. Communier au corps du Christ, c'est rejoindre Jésus par la communion et par son action, dont nous sommes les missionnaires au milieu du monde. Et c'est à ce moment-là que la communion trouve sa pleine réalisation, si dans le même mouvement nous tenons ces deux choses. L'importance d'être au service de nos frères et sœurs et si, comme le Christ, on le dit de temps en temps, nous restons en tenue de service. Alors notre célébration dit tout cela, puisque nous commençons par le temps de la parole, puis le temps de l'Eucharistie proprement dite, et nous terminons par l'envoi aux missions dans le monde, au milieu de nos familles, dans notre travail, au milieu de nos frères. L'importance de la parole, très concrètement, pendant ce temps de vacances, que nous soyons en vacances ou pas en vacances, je pourrais proposer pour la semaine qui vient de se donner un petit moment chaque jour, un quart d'heure par exemple, au même moment de la journée, sinon on oublie, un quart d'heure, 10 minutes même peut-être, c'est suffisant, pour lire l'évangile du jour et se dire qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui dans ce texte pour moi aujourd'hui? Où le Seigneur aujourd'hui m'attend-il une fois que j'ai lu ce texte d'évangile? D'une autre manière, au milieu de toutes les préoccupations de l'été, qu'est-ce qui est essentiel aux yeux du Seigneur pour moi aujourd'hui? J'ai regardé l'évangile de lundi, qui est cet épisode assez curieux, où les autorités réclament 2 drachmes, je ne sais plus, pour entrer dans le temple, je ne sais plus pourquoi. Ils réclament 2 drachmes. Et Jésus dit à son apôtre, « Eh ben, va pêcher, tu as trouvé un poisson, il y aura 2 drachmes, et puis on les donnera aux autorités. » Et je me dis, en cette période où on discute, faut-il se faire vacciner, par exemple, faut-il pas se faire vacciner, on doit obéir à ceci, à cela, finalement, est-ce que cette parole de Dieu me dit quelque chose dans mon rapport, dans la manière dont je dois me comporter vis-à-vis des autorités? Enfin, je laisse tout ça à votre méditation lundi. Donc, chers amis, tournons nos yeux vers le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il nous sauve de toutes nos angoisses. Amen.